Bien, bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous ce soir pour entendre Dominique Rabaté qui donc publie ces jours-ci un essai qui s'intitule Le roman et le sens de la vie aux éditions donc José Corti. Et bon, pour commencer, présenter en quelques mots peut-être. L'auteur que nous accueillons ce soir, bon, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc on va dire que Dominique Rabaté est quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps à la littérature moderne et contemporaine. Il est professeur à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Il est l'auteur d'un certain nombre de publications dont on va peut-être reparler par la suite, et d'un certain nombre d'essais aussi donc publiés. Notamment, mais pas seulement, aux éditions José Corti. Donc, l'essai qui paraît ces jours-ci, donc Le roman et le sens de la vie, fait suite à un autre livre qui, je crois, date de 3 ou 4 ans, Le chaudron fêlé. Et on verra qu'il y a quelques échos avec ce livre-là que l'on va trouver dans l'essai de ce soir. Et un certain nombre de textes aussi publiés. Au fil des années, disons depuis presque 20 ans, comme Poétique de la voix, Vers une littérature de l'épuisement, Louis-René Desforest, La voix et le volume. Donc toujours dans cette maison Corti, hein, qui accueille ton travail depuis maintenant un certain nombre d'années, certaines fidélités donc à ton travail, et des noms qui reviennent souvent. Dans ton cheminement, dans ton interrogation à la littérature. Donc, on a cité Louis-René Desforest. Très vite surgit la figure de Maurice Blanchot aussi. Hein, donc quand on regarde quelles sont tes préoccupations et les axes majeurs de ton travail, des auteurs dont on entend parler beaucoup, comme par exemple Marine Diaille, à qui tu as consacré aussi un entretien récemment. Gérard Massé, Tabouki, Thomas Bernard, Céline, Joyce, Pérec, enfin voilà quelques-unes des figures qui te préoccupent et sur lesquelles tu t'interroges. Et peut-être on pourrait trouver dans cette profusion quelques difficultés à voir ce qui, en fait, fédère un peu tes préoccupations. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu traces ton chemin à travers ces figures et en quoi finalement t'intéresser à ces auteurs te permet d'interroger une littérature, celle que tu aimes véritablement?
Alors, moi, je pense que je dirais les choses comme ça. J'ai commencé à travailler il y a longtemps sur l'œuvre de Louis-René Desforest, qui me posait, me semble-t-il, un problème. Particulier ou intéressant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a commencé par écrire un roman, un vrai roman, un peu plein de bruit et de fureur, avec une histoire très romanesque d'enfants, de contrebandiers, d'adultes occupés aussi par des histoires d'amour tragique. Enfin bon, donc un roman qu'on avait décrit à l'époque, dans les années 40, comme un roman à l'américaine en composition polyphonique avec plusieurs personnages qui prennent la parole. Et alors qu'il avait fait ce roman qui a été plutôt bien apprécié, le deuxième livre que publie Desforest est une sorte de massacre ou de saccage du roman. C'est le texte qui s'appelle Le Bavard, qui est une sorte de monologue un peu dévastateur, qui conteste entièrement la possibilité d'écrire un roman. Alors moi, j'ai commencé à travailler finalement un peu par un biais qui était de voir pourquoi un nombre important d'écrivains du XXe siècle s'étaient détournés du roman et avaient cherché ailleurs, dans une forme que j'ai appelée le récit, à la suite de Blanchot. Mais je pense que depuis longtemps, ou depuis ce début-là, ce qui m'intéressait, c'était d'une certaine manière de m'expliquer à moi-même ce qui fait notre goût pour le roman, ou ce qui fait que le roman tient, ou se maintient, ou continue d'exister, puisqu'il existe indéniablement. Et donc, à partir d'un questionnement qui était un peu aux marges du roman, dans la modernité ou dans le XXe siècle, et par un détour qui consistait à interroger plutôt la prééminence de ce qui me paraissait relever de la voix plus que des personnages dans le roman moderne du XXe siècle. J'ai jamais perdu de vue, à la fois par plaisir personnel, moi je suis un grand lecteur de romans, j'aime Harry Potter, j'aime Alexandre Dumas, j'aime Pérec aussi bien, enfin, donc d'une certaine manière, j'ai été confronté pendant un certain nombre d'années, on pensait que j'étais le prototype même du lecteur blanchotien qui n'était intéressé que par un certain secteur de la littérature et qui aurait eu le plus grand dédain pour toutes sortes de choses. C'est assez faux pour Blanchot lui-même, qui lisait toutes sortes de choses et aussi des vrais romans. Voilà. Donc, cette idée de savoir ce qu'était un vrai roman, finalement, continuait de m'intéresser. Et il me semble qu'on peut tracer au XXe siècle, à partir de certaines marges ou de certaines périphéries, ce qui constituerait le centre de l'expérience particulière que délivre le roman. Et c'est peut-être pour ça que ce petit essai en vient finalement à essayer de poser cette question-là, finalement, de ce qui fait, pas l'unité thématique, il n'y en a pas, mais le vif de ce qui intéresse un romancier et de ce qu'un romancier peut nous dire sous la forme du roman.
Alors cet essai, Le roman et le sens de la vie, il comporte une dimension, on va dire, de questionnement un peu théorique, on pourrait dire rapidement théorique en ouverture, et aussi deux piliers essentiels qui sont deux études que tu proposes, donc d'un roman de Tolstoï, une grosse nouvelle ou un roman, hein. On est un peu à la limite des deux, là c'est toujours difficile de définir véritablement. La mort d'Ivan Illich, qui date donc des années 1880, et le très grand et beau roman de Virginia Woolf, dans une traduction pour laquelle il est intitulé Voyage au phare. Alors évidemment, on en connaît d'autres, hein, La promenade au phare, Vers le phare, toi c'est celle donc de... Tu précises qu'il s'agit bien de celle-là, Vers le phare, qui est édité donc dans cette collection des œuvres romanesques de la Pochothèque. En quoi, alors, je vais t'interroger sur tes préoccupations personnelles, en quoi ces deux romans, on ne va pas entrer dans les problématiques véritables tout de suite, puisqu'on va y revenir au fil de notre entretien, mais est-ce que ces deux romans-là témoignent, et de quelle façon de cette, on va dire, de cette, ce basculement de la prose romanesque dans la modernité que tu situes, je crois, aux alentours du milieu du XIXe siècle. Qu'est-ce qu'il porte véritablement de moderne, ces deux ouvrages ?
Il y a plusieurs choses à dire là, sans doute. D'une façon un petit peu étrange, j'étais content d'avoir fait un livre où il n'y avait pas de chapitre ou de lecture suivi d'auteurs français. Voilà. Donc, le précédent livre était consacré qu'à des auteurs français et je milite de façon assez douce, mais je n'ai jamais compris pourquoi on avait découpé dans les études littéraires des secteurs comme la littérature française, la littérature comparée. Je pense qu'on devrait faire de la littérature générale. Parce que je ne connais aucun lecteur qui ne lise que des romans anglais ou que des romans américains ou que des romans japonais ou que des romans français. Donc il y avait.
C'est Barthes qui disait qu'il avait du mal à lire des traductions, je crois qu'il était.
Ah, il y a peut-être la question de la traduction. Moi, j'ai aucun mal à lire des traductions. Enfin bon, Woolf, je l'avais lu en anglais. J'ai fait un peu de russe, donc j'ai peut-être garder ce goût-là d'avoir lu un petit peu Tolstoï en russe. Donc il y avait cet aspect-là qui est un peu anecdotique. La deuxième chose, c'était aussi presque des formes de, comment on peut dire ça, de promesses qu'on se fait à soi-même, où on se dit, après avoir lu un livre, qu'on écrira quelque chose dessus. Et la mort d'Ivan Illich, moi, m'intéressait depuis très longtemps, parce que dans un des livre plus anciennement publié, le Vers une littérature de l'épuisement, j'avais essayé de réfléchir au fait qu'il y avait dans la deuxième moitié du XIXe siècle énormément de récits de la mort d'un individu raconté depuis son point de vue. Et ce paradoxe qui est que nous ne vivrons pas notre propre mort, nous sommes définis comme des sujets qui ne connaissent ni leur origine, nous n'avons pas assisté en toute conscience à notre naissance, même si certains pensent qu'on peut la retrouver par les voies de l'analyse, et nous ne serons plus là au moment où nous mourrons. Donc cette espèce de moment paradoxal de pouvoir parler sa propre mort est en fait un moment que la littérature de la deuxième moitié du XIXe siècle explore dans des tas de fictions. Et justement, c'est la fiction qui permet ce dispositif. C'est-à-dire c'est la fiction qui permet que nous imaginions quelque chose que nous ne pourrons pas expérimenter ou dont nous ne pourrons pas faire des preuves. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur la mort d'Ivan Illich. Et j'ai retrouvé ce questionnement avec la question de savoir ce que ça pouvait dire, vouloir dire que d'avoir une vie à soi. Donc c'était dans ce questionnement-là que j'ai retrouvé cette lecture. Et la même chose pour Virginia Woolf. Ça faisait très longtemps que je m'étais fait une sorte de promesse à moi-même d'écrire quelque chose sur ce livre. Et en réfléchissant à la composition de cet essai, il m'a semblé que c'était le bon livre, ou c'était le bon moment de parler. Alors si je parle de ces questions de se faire des promesses à soi-même, c'est parce que je pense que ça a rapport avec la question de la forme d'une vie. C'est-à-dire que je pense que la forme d'une vie, c'est aussi le temps qu'on met à accomplir certaines choses ou pas, qu'on a pu se promettre de faire. Voilà, donc c'est la forme d'une réalisation d'un ancien souhait ou la persistance à maintenir une question qu'on voudrait non pas avoir réglée, mais c'est moins la régler que lui avoir donné une certaine forme, voilà, était pour moi importante. Alors, pour répondre plus précisément à ta question, ça me permettait aussi, en prenant deux textes qui sont, je crois, des expériences de lecture très fortes pour tous ceux qui ont lu ces livres. J'étais très touché parce que j'ai envoyé ce livre à Bernard Pingot, et je cite Bernard Pingot parce que ses réflexions sur le roman m'ont beaucoup aidé à penser ce que j'essaye d'avancer dans ce livre. Et on s'est parlé au téléphone il n'y a pas longtemps, et il m'a dit « Ah, vous avez parlé de deux livres que je tiens pour les plus importants. » Je crois que pour beaucoup de lecteurs, ces deux livres qui nous mettent en rapport avec l'expérience de ce que c'est que lire un roman, c'est-à-dire l'expérience de lire quelque chose qui touche à la fois au mystère et à la chose la plus commune que c'est que d'avoir une vie. Donc c'était cette réflexion-là qui m'a amené. Alors c'est toujours un peu délicat quand on prend deux livres, on a toujours très peur de leur faire porter une charge un peu excessive. Hein, pourquoi celui-là et pas tel autre? Pourquoi Virginia Woolf? Et donc, il fallait à la fois que je revendique une certaine part de lecture personnelle, c'est-à-dire c'est pour moi, dans les très grands textes qui m'habitent, avec lesquels je médite ou je réfléchis, que je peux relire. Il y a aussi ça, il y a des livres qui accompagnent toute une existence, et puis il y en a d'autres qu'on a beaucoup aimé à une époque, et puis qui perdent. Il y a des pans entiers de sa bibliothèque qui disparaissent dans une sorte de, pas d'oubli, mais d'indifférence, disons. Donc c'était pas le cas de ces deux livres. Et si tu rappelles les dates, effectivement, c'était aussi une façon de réfléchir à ce qui se passe dans le roman moderne. Donc j'aurais pu, enfin le titre exact de ce livre, mais il aurait été un petit peu moins percutant, je ne sais pas si c'est le mot, ça aurait été le roman moderne et la question du sens de la vie. Donc c'est la question du roman moderne dans la mesure où il me semble que le questionnement qui est central au roman, qui est l'énigme de cette chose commune qui est d'avoir une vie, amène à des formes d'écriture qui sont entièrement renouvelées entre la période 1860 et 1940, qui est pour moi l'âge d'or du grand roman européen, dans lequel se propose une sorte de méditation, de configuration plus exactement, de ce que c'est qu'une vie. Et Tolstoï m'intéressait parce que c'est un des inventeurs du monologue intérieur avec les récits de Sébastopol. J'ai pas pris le Tolstoï de Garépé, j'ai pas pris le Tolstoï des grandes formes romanesques, mais plutôt d'un texte relativement indécidable parce que c'est pas un roman, c'est une longue nouvelle, ce pourrait être un récit. Tolstoï l'écrit à un moment où il dit qu'en gros il veut plus écrire de littérature, mais il veut produire des textes édifiants pour le peuple, pour les moujiks qui s'est retiré hein, dans son domaine, et il fait de l'action sociale, hein, on peut dire. Donc ça m'intéressait aussi de voir pourquoi un si grand écrivain comme Tolstoï, qui semblait avoir renoncé entièrement à la forme du roman, maintenait la nécessité d'écrire ce texte. C'est quasiment le dernier texte de fiction que Tolstoï écrit dans sa vie. Après, il écrit vraiment des contes édifiants ou de la littérature très idéologique. Voilà. Et Virginia Woolf, c'était pour moi le moment où on peut dire que le roman des années 20-30, parce qu'il se pose la question de la représentation de ce que c'est qu'une vie, est obligé de transformer entièrement la forme même du roman d'une façon assez spectaculaire pour toucher à cette espèce de matière, hein, à ce moment d'être, comme dit Virginia Woolf. Et des livres de Virginia Woolf, moi, c'est vraiment To the Lighthouse qui est le, je trouve, le plus sidérant et le plus impressionnant. Donc c'était aussi une manière donc d'essayer de réfléchir à cette espèce de moment de mutation du roman qui constitue pour moi l'espèce d'âge d'or de la révolution du roman. Alors je pourrais dire les choses un petit peu autrement, mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Il y a un essai qui est apparu il y a quelques années de Thomas Pavel qui s'appelle « La pensée du roman ». Alors moi, je me suis promis, quand j'étais très jeune, d'écrire une grande théorie du roman. Donc, je ne désespère pas d'y arriver. Ça, c'est une petite théorie du roman. Dans la pensée du roman, Pavel fait quelque chose d'assez étonnant, mais d'intéressant. Parce que moi, je viens plutôt du bord moderne ou moderniste. Lui, il vient plutôt de quelqu'un qui est spécialiste du XVIIe siècle. Et je trouve intéressant qu'il essaye de penser l'histoire du roman par des textes qu'on lit quasiment plus. Tous les grands romans du XVIIe siècle, très peu de lecteurs les lisent, les spécialistes d'histoire littéraire peuvent les lire sans doute. Enfin, je ne sais pas si vous lisez couramment Honoré d'Urfé et toutes sortes d'énormes pavés comme ça du XVIIe siècle. Et son idée dans la pensée du roman, c'est que le roman est le genre, depuis le roman grec, donc depuis une des origines du roman, d'une représentation morale idéale de la vie. Et qu'en gros, le roman est affronté au conflit entre la réalité qu'il cherche à décrire et un modèle moral qu'il maintient. Alors, l'hypothèse de Pavel est très intéressante pour lire une partie du roman antique, pour lire une partie, hein, parce qu'il ne touche pas trop à des choses qui sont plus compliquées comme Pétrone, mais enfin bon. Une partie du roman moraliste et sentimental du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Mais moi, j'avais observé en lisant son livre que je trouvais que son hypothèse n'allait absolument pas dès lors qu'on arrivait au XIXe siècle. Et alors, à mes yeux, c'est encore pire quand il arrive au XXe siècle, parce qu'il dit des choses aussi bizarres que, en gros, Faulkner, c'est illisible. Bon. Alors, oui, j'en viens au deuxième point. Oui, Virginia Woolf, c'est pas simple à lire, bien sûr, et Faulkner, c'est pas simple à lire, mais il me semble que c'est l'hypothèse de départ qui peut plus du tout fonctionner. C'est-à-dire que le roman moderne, et à partir du XIXe siècle certainement, n'est absolument pas réductible à la question de savoir si le roman nous fournit un idéal moral. Et il me semble que en prenant Tolstoï, c'était cette question-là qui était posée. Parce que la mort d'Ivan Ilitch, c'est une question morale. Qu'est-ce que c'est qu'avoir bien vécu ? Ivan Ilitch, c'est quelqu'un qui est présenté par le début du texte comme déjà mort, et puis il y a une sorte de retour en arrière, et après c'est tout dans sa pensée à lui, jusqu'à son agonie. Et la question de savoir si Ivan Ilitch a vécu une vie qui valait la peine d'être vécue, qui était moralement acceptable. C'est pas la même question que pose Virginia Woolf, me semble-t-il.
Parce qu'on peut préciser quand même que le titre, donc le roman et le sens de la vie, c'est une allusion directe à une question d'un des personnages de Vers le phare, donc le peintre, l'artiste peintre Lily Briscoe, qui se demande, à un moment assez évidemment clé du roman, quel est le sens de la vie. Et à partir de cette question très générale, tu déroules les chevaux de ton questionnement dans cet essai. Donc il y a vraiment une allusion directe. On retrouve l'emprunt au roman dans le titre de ton essai.
Elle dit d'ailleurs, la vieille question qui continuellement traverse le ciel de la pensée, la vaste question générale, qu'elle appelle aussi un simple slogan glané dans quelques livres. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire, c'est que c'est au début de la troisième partie de Voyage au phare. Elle est dans la cuisine de la maison qui a été réoccupée après la mort de Mrs. Ramsay. Elle est toute seule, elle ne sait pas très bien quel est son statut par rapport à la famille Ramsay. Enfin bon, et elle est prise par cette espèce de questionnement, finalement, quel est le sens de sa vie, qu'elle ironise d'une certaine façon. En même temps qu'elle dit que ça a rapport avec ce qu'on lit dans les livres. Donc, c'est pour moi, il y avait cette citation, puis celle que j'ai mise en exergue de Walter Benjamin, hein, mais qui dit « Le sens de la vie, entre guillemets, voilà bien en effet ce qui est au centre de tout vrai roman. » Donc, d'une certaine manière, pour moi, « sens de la vie », c'est entre guillemets. Voilà. C'est cette phrase qu'on ne peut pas prononcer sans une sorte de soupçon d'ironie, sauf dans les soaps américains, hein, quel est le sens de ma vie.
Mais finalement, le risque dont tu parles dès l'ouverture de ton essai, d'aller vers la banalité, vers le brassage de vérité générale, il est un petit peu évité, même il est complètement évité d'une certaine manière, puisqu'il ne s'agit pas de poser une question pour obtenir des réponses, puisque de toute façon, il est impossible, tu viens d'en parler, d'en trouver, il n'y en aura pas. En revanche, c'est l'idée que ce questionnement se maintienne toujours, inlassablement, et que chaque livre, finalement, serait une manière pour le lecteur de se réinterroger lui-même à travers l'expérience des personnages qui lui sont confiés, en quelque sorte, à voir vivre, quoi, qui lui sont proposés. Et que c'est une question qui ne peut pas avoir de réponse et qui même, tu dis à un moment donné, le roman ne peut être qu'une source d'inquiétude, finalement, et pas apporter de réponse de cet ordre-là.
Voilà, oui, donc c'est pour ça que je parlais de Thomas Pavel. Moi, ma thèse serait un peu antagoniste ou inverse de ce qu'il dit. Il me semble que le roman est le maintien de la question du sens de la vie, mais absolument pas de réponse. Et d'une façon amusante, Pavel a choisi pour son livre « La pensée du roman » une citation de George Sand. Et George Sand, c'est encore la tradition, effectivement, de ce qu'on appelle le roman idéaliste au XIXe siècle, ou disons du roman moral. Donc George Sand cherche effectivement à nous dire quel est le sens de la vie d'une certaine façon, ou comment bien vivre, ou participe du grand projet classique d'une éducation par l'art ou par le roman. Et moi j'ai choisi une citation de Flaubert qui est presque le contre-pied de George Sand. Il y a un échange de lettres très intéressant entre George Sand et Flaubert. La correspondance de Flaubert est une chose, vraiment une lecture magnifique. Et George Sand envoie une lettre à Flaubert en lui disant « Oui, c'est très bien, tout ça, c'est parfait ce que vous faites, mais il vous manque une vue bien arrêtée du sens de la vie. » Et Flaubert répond cette chose magnifique, faisant mine de prendre la critique comme une sorte de reproche. Il lui dit « Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais comment pourrais-je hein ?» C'est à la fois une incapacité, mais il transforme ça en une sorte d'attaque plus fine ou ironique en disant « Mais comment faire pour avoir une vue bien arrêtée du sens de la vie ?» Et d'une certaine manière, ce que Flaubert manifeste dans le roman, c'est, me semble-t-il, l'arrivée d'un narrateur qui n'a pas, qui ne peut pas, qui ne doit pas, c'est toute la théorie que Flaubert explique partout dans sa correspondance, le romancier moderne est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas de réponse à ça. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'il n'a pas de réponse qu'il ne maintient pas la nécessité d'une forme de configuration du sens de la vie. Donc, pour dire les choses un petit peu autrement, moi, il me semble que le roman est le lieu où se maintient la nécessité que chacun se trouve éprouvé de se demander quel est le sens de sa vie, mais sans qu'il y ait de réponse, mais plutôt une sorte de négociation, pour employer un mot qui est dans le livre de Virginia Woolf, entre des lignes d'existence, entre des formes d'existence, entre des points de vue sur l'existence, entre le point de vue d'autrui et le point de vue intérieur. Voilà. Il me semble que le roman moderne s'ouvre à sa plus grande richesse à partir des années 1860, quand il découvre justement l'extraordinaire richesse qu'il y a dans toutes ces antinomies. Et Madame Bovary est pour ça un des fondements pour moi du roman moderne, parce que c'est pas du tout la question de savoir s'il y a une vie morale idéale. Il y en a pas. Si on lit bien Madame Bovary, c'est plutôt un constat assez désespéré qu'il faut faire. Mais il y a une sorte de croisement, d'antinomie entre la volonté d'avoir une vie stéréotypée, le regard que les autres projettent sur vous, les modèles dérisoires et mal adaptés par Emma Bovary, etc. Donc il me semble que le statut de l'individu moderne est dans cette espèce de manière de se poser cette question-là, qui implique moins une réponse qu'une manière de se raconter à soi-même sa propre existence. Et c'est pour ça que c'est le roman, me semble-t-il, qui est le lieu fécond d'une interrogation de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse morale, religieuse. On peut les avoir. Ce que je trouve intéressant, c'est que Tolstoï était persuadé d'avoir une réponse religieuse à la question du sens de la vie. Et pourtant, dans La mort d'Ivan Illich, il n'y a pas de contenu religieux assignable à la fin. Alors qu'il est dans la période la plus doctrinaire de son œuvre, qu'il est militant de cela. Il me semble que le romancier, dès lors qu'il fait un travail de romancier, ne peut plus répondre à cette question, mais peut essayer de configurer des registres stéréophoniques, d'antinomie, de point de vue partiel, sur quelque chose qui, malgré tout, se maintient comme une impossible totalité. Parce que si je pouvais répondre à la question du sens de ma vie, je pourrais dire que ma vie est une totalité. Se tient comme un tout. Donc c'est à la fois ça que cherche le roman, de pouvoir nous montrer la vie comme une sorte de totalité, ce que nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes, puisque nous ne pouvons pas la voir du point de vue de notre mort réelle. Mais nous pouvons nous livrer imaginairement à toutes sortes de rêveries sur ce que serait notre vie une fois que nous serons morts, ou ce qu'elle aura signifié pour ceux qui nous survivront, ou si elle se fait, vous voyez, ou partiellement à tel moment, etc. Donc il me semble que le roman est cette espèce de laboratoire extrêmement varié, extrêmement riche, d'une façon d'interroger une question qui n'a pas de sens. Quel est le sens de la vie, mais qui néanmoins, c'est ce que Wittgenstein dit dans un texte que je trouve très beau, ça n'a pas de sens, mais c'est une question absolument crucial et fondamental. Mais il n'y a pas un sens au sens logique, si l'on veut, ou strictement sémantique. Hein. Et à partir de là, on entre aussi dans quelque chose qui est très important, c'est-à-dire c'est la discussion éthique, finalement. Et c'est d'envisager aussi le roman comme le lieu de cette discussion éthique sur les manières possibles de vivre ou les manières d'avoir une vie.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'une des, un des signes de l'entrée de la forme romanesque dans la modernité, c'est que ça serait que finalement c'est un roman qui accorde une place supplémentaire au lecteur, à savoir qu'il peut entrer dans cette dialectique, il n'en est pas exclu par un surplomb moral dont tu parles aussi à certains lieux de cet essai, qui en fait l'écraserait et l'empêcherait de formuler sa propre perception de la réalité et des questionnements éthiques qui sont en cause. Et pour aussi comme corréla à cette question, ce que tu disais de l'imperfection finalement à l'œuvre, le renoncement, puisque le romancier a le pouvoir d'être Dieu, mais en fait il y renonce, hein, il s'interdit cette possibilité. Il ne veut pas être l'omniscient qui va asséner une connaissance totale de la vie de ses personnages, de leur destinée. C'est un petit peu, ça fait écho également à ce que tu disais dans l'essai précédent, donc dans le Chaudron fêlé, à cette musique imparfaite, finalement, qui est produite par la prose romanesque, cette musique qui ne peut pas accéder au sublime, mais qui en même temps est celle qui va nous toucher le plus et va nous entraîner. Est-ce qu'on est dans le même, je dirais, dans cette même série d'attributs qui seraient ceux du roman moderne, à savoir le renoncement à vouloir être du côté du sublime, à accepter en tout cas de ne pas l'être, et également donc d'être dans une ouverture au lecteur, de l'introduire dans ce questionnement dialectique dont tu parlais à l'instant.
Mmh. Ouais, il me semble en effet que, enfin, contrairement à une lignée classique ou moralisatrice du roman, le roman moderne découvre, c'est la thèse centrale de Kundera dans ses réflexions sur le roman, dans le livre L'art du roman, ce qu'il appelle une sagesse de l'incertitude. Et il essaye d'expliquer, en valorisant un certain type de roman européen qui commence à Don Quichotte pour lui, et Don Quichotte, c'est un des modèles de Madame Bovary, sans doute. Voilà, c'est cette idée que, justement, le roman ne répond pas. Voilà. Et pour Kundera, c'est ce qui en fait le prix, c'est-à-dire qu'il n'est réductible à aucune idéologie, à aucune religion, à aucune vérité affirmée. Il est plutôt dans cette espèce d'incertitude et sagesse de l'incertitude, parce que finalement, il ne délivre aucune leçon. Voilà. Donc il y a un autre fil dans ce livre qui est pour moi très important, dont on reparlera sans doute, c'est la question de l'exemplarité. Il me semble que Pavel est, lui, plus du côté d'une tradition du récit exemplaire. Voilà. Un récit exemplaire, c'est je vous donne une sorte de modèle, la vie de saint, la vie héroïque, la vie du grand homme, etc. Hein, alors que, c'est là que j'en viens au deuxième point, il me semble que ce qui fait basculer aussi le roman moderne vers quelque chose d'autre, c'est l'idée de traiter de quelque chose d'absolument commun, d'absolument ordinaire, de quelque chose qui n'a rien d'héroïque ou qui n'a rien d'une vie. Et les deux lectures que je fais, la mort d'Ivan Illich, c'est vraiment n'importe qui. S'il est juge, il a pas mal réussi sa carrière, etc. Mais enfin bon, c'est l'individu moyen de la société russe de la fin du 19e siècle. La palette de personnages qu'il y a dans Voyage au phare, il y a des artistes, il y a un philosophe, etc. Mais ils ne sont pas vus parce qu'ils auraient d'exceptionnel. Et il me semble que ce que découvre le roman réaliste à partir du XVIIIe siècle, parce que la thèse de Pavel est même finalement très contestable, je crois, pour le XVIIIe siècle, mais ce que découvre le roman à partir du moment où il devient vraiment cette espèce d'immense... déploiement d'exploration. C'est l'individu ordinaire, c'est l'individu moyen, c'est la vie commune. Mais la vie commune saisie depuis un point de vue qui est d'une certaine manière incommensurable, c'est-à-dire sans commune mesure. Parce que la vie d'Ivan Illich, c'est la sienne et elle est vue depuis le point de vue d'Ivan Illich. Donc il me semble que le roman est plutôt dans cette manière de nous faire entrer imaginairement dans un point de vue, mais renonçant à des formes d'exemplarité, nous introduit plutôt à cette espèce de méditation sur ce qui est à la fois commun et sans commune mesure. Voilà. Donc il me semble que c'est cette négociation-là qui est plus importante pour le roman moderne et qui implique aussi toutes sortes de découvertes, enfin de travail sur le point de vue et aussi dans un sens un peu plus théorique, parce que j'avais pas mal travaillé sur les théories du critique russe Bakhtin, mais implique aussi dialogisme, polyphonie, valorisation du point de vue du personnage, ou voilà, la grande thèse de Bakhtin, c'est que le roman européen va vers quelque chose qui est que de moins en moins le narrateur surplombe, dit ce qu'il faut savoir, penser de tel personnage, mais laisse une sorte d'autonomie à chaque personnage qui représenterait dès lors une sorte de point de vue possible sur le monde. Voilà.
Et est-ce que cette entrée dans la modernité du roman, est-ce que tu la relis sociologiquement, hein, ou historiquement, on pourrait dire, à un basculement dans on dirait peut-être la construction de l'individu? Est-ce que, bon, ce que tu le situes à la moitié du 19e siècle, au début des années 60, 1860, qu'est-ce qui se produit finalement qui ferait que les auteurs, les romanciers proposent une autre forme de littérature, une autre forme d'interrogation de la vie à travers les livres?
Oui, je fais ça tout à fait résolument. Pour ça, je disais, je rêve d'une grande théorie du roman, mais c'est toujours très difficile à écrire. Mais de manière absolument notable, je crois, pour moi, je retrouve ici des thèses qui sont des thèses de théoriciens du roman, comme Georg Lukács. Mais le roman, c'est la forme même d'expression de l'individualité bourgeoise. Donc c'est à partir du XVIIIe siècle, effectivement. C'est absolument le récit de vies qui peuvent devenir des vies imprévisibles. Et ça, c'est toute la question du roman au XVIIIe siècle. Donc il me semble qu'effectivement, on est obligé d'envisager, quand on réfléchit à ce que c'est que le roman, à son développement, à sa fortune dans toute l'Europe du XVIIIe siècle, XIXe siècle, que c'est fondamentalement lié à ce que Lukács appelle l'individu problématique. La thèse de Lukács, si on la résume un peu sommairement, hein, c'est que il y a eu l'épopée, et puis pour des sociétés ouvertes, il y a le roman, parce que le roman ne constitue plus un monde clos, cohérent, aux valeurs, il ne fallait pas toucher le micro, mais dessine des trajets d'existence ouverts, incomplets. Hein, donc l'idée d'incomplétude, moi je crois qu'elle est très centrale effectivement pour penser la spécificité du roman par rapport à des formes de littérature plus exemplaires ou plus morale. Et donc, il me semble que le roman accompagne cette espèce de développement de l'individualisme et de l'individualité dans les sociétés européennes du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, jusqu'au moment où moi je le prenais selon une question que je cherchais à réfléchir un petit peu, jusqu'au moment où on peut être dans un type de société où on peut se poser la question de savoir ce que c'est qu'une vie à soi. Ce qui m'apparaît comme un luxe. Hein, je pense que toutes les sociétés, et dans l'histoire des hommes, n'ont pas été des sociétés où on pouvait se demander où cette question-là n'avait même strictement aucun sens, c'est-à-dire qu'elle ne se posait même pas en tant que question. Donc il faut qu'il y ait effectivement, donc il y a forcément une sorte de généalogie à faire de ce qu'on peut appeler la modernité, avec beaucoup de prudence, parce que dès qu'on met des dates, c'est très compliqué de savoir à quel moment ça commence, bien sûr. Mais il me semble que le roman prend conscience, peut-être plus nettement encore au XIXe siècle, de ce moment qui est historiquement la possibilité que chaque individu a de se demander ce qu'il fait de sa vie. Mais, et c'est pour ça que Madame Bovary était pour moi, ou Flaubert est un très bon point de départ, parce que je pense que ce qui fait la chose géniale de Madame Bovary, c'est que c'est un des premiers romans qui nous montre que cette question, elle est à la fois inévitable et elle en même temps une forme d'hystérie terrible. C'est-à-dire que c'est parce que cette question se pose que vous êtes aliéné à votre propre vie. Parce que dès lors que vous essayez de vous conformer à un modèle de vie romantique, à un modèle de vie, hein, voilà. Première fois qu'elle voit Léon, Léon lui dit que ce serait merveilleux d'aller jouer du piano au pied des Alpes. Bon, cliché. Hein. Mais qui ne rêve pas sa vie sous le mode de certains clichés? Donc voilà, cette question-là, me semble-t-il, elle bascule d'une certaine façon vers la moitié du XIXe siècle, autour de cette rêverie d'une autre vie ou d'une vie plus pleine ou d'une vraie vie.
Avec l'injonction de se réaliser.
Avec l'injonction de se réaliser. Alors, de cette manière-là, on peut voir le XXe siècle comme une sorte de programme de plus en plus terrible qui nous enjoint d'être heureux, de réaliser notre vie, de réussir. Il y a plein de livres là-dessus. Hein, comment réussir sa vie ou toutes ces choses-là. Il me semble que le roman prend ce questionnement-là dans sa plus grande inquiétude, voilà, non pas pour dire qu'il n'y a pas de sens à se poser ce type de questions, hein, mais à voir plutôt de quelle manière la configuration des modes de réponse est dans le croisement, dans le dialogisme peut-être de temporalités différentes, de regards différents, de points de vue différents, voilà. Mais il me semble que cette question de savoir ce que c'est qu'avoir une vie à soi, alors de deux manières, je crois que c'est une question historique, je crois que c'est une question d'époque qui commence avec le 19e siècle et dans laquelle on est un peu hystériquement plongé, hein. On nous enjoint de réaliser nos vies. Hein. J'aurais pu aussi travailler sur Oblomov. Oblomov, c'est un très beau personnage, hein, qui fait plus rien, qui traîne au lit, qui, bon, l'anti-modèle du capitalisme triomphant d'aujourd'hui, le contraire du travailler plus pour gagner plus. Donc, il y a à la fois cette espèce d'injonction très forte, et puis, d'une autre façon, c'était aussi une manière pour moi d'essayer, j'avais dit, de m'expliquer ce qui fait qu'on lit des romans. Je crois que le lecteur de romans est quelqu'un qui est attiré par cette espèce de rêverie sur la vie des autres, qui le renvoie à une sorte de rêverie sur sa propre vie, évidemment, mais sous une forme qui n'est pas, là encore, de réponse, mais plutôt de manière potentiellement différente de se raconter à soi-même le cheminement de son existence. Oui.
Et à ce propos, il y a un détour que tu fais aussi par la pensée de Walter Benjamin, avec cet essai fameux qui fait partie donc de ces œuvres qui ont été rassemblées il y a quelques années chez Gallimard, donc Le Conteur, hein, qui est un texte qui tourne autour d'une figure d'un écrivain peu connu, un écrivain russe, hein, Leskov, qui est peu connu et qui interroge la question de la transmission de l'expérience, avec l'idée que l'expérience serait une sorte de mélancolie dans la parole de Benjamin, plus possible aujourd'hui, enfin à l'époque où il écrit, dans les années 30. Et ça rejoint ce que tu disais, à savoir que un individu qui a l'injonction de se réaliser lui-même, c'est-à-dire d'inventer sa propre existence, ne peut plus se conformer à un modèle moral dans lequel, finalement, il y aurait une simple imitation, une simple reproduction de codes sociaux. Tu pourrais préciser peut-être ce détour par la pensée de Benjamin.
Oui, pour moi, c'est vraiment ça, un texte très, très important, assez énigmatique, mais très, très stimulant dans ce qu'il propose de réfléchir. Donc c'est un essai que Walter Benjamin a écrit dans les années 30 qui s'appelle le conteur, qui avait été d'abord traduit par le narrateur. Enfin bon, où en gros, Benjamin propose de dire que pendant très longtemps, pendant des siècles, la figure qui a dominé, c'est la figure du conteur. Et le conteur, c'est la figure du cercle villageois, du cercle communautaire. C'est celui qui transmet une morale pratique, qui transmet une expérience. Alors, c'est là que c'est compliqué. Je m'excuse de passer par les mots allemands, mais la traduction des termes allemands est très importante. Pour Benjamin, c'est celui qui transmet une Erfahrung. Donc, une expérience au sens d'une expérience qui est légable, qui est transférable à d'autres. Et pour lui, la littérature, le conte, toutes sortes de formes, souvent orales, sont liées à cette espèce de sagesse pratique qui s'est transmise. Benjamin ajoute de façon un peu mystérieuse par l'autorité de la mort. Parce que c'est aussi le savoir du conteur est quelque chose qui est lié avec le moment de la mort qui donne une totalité à l'existence, qui lui donne son sens. Et il prend comme exemple cet auteur qui n'est pas très connu, Lietzkov, un auteur russe du 19e siècle. Et il oppose à ça une sorte d'autres pratiques, et c'est ça qui, moi, m'intéresse beaucoup. Il dit, le roman, c'est tout l'inverse de ça. Le roman a perdu la possibilité de transmettre une sagesse pratique. Alors, pour plusieurs choses, et ça rejoint des travaux que j'avais faits sur le solitaire, sur le secret, dans la collection Modernité, le roman s'adresse d'une solitude à une solitude. La lecture est un acte solitaire. Donc le roman rompt avec une pratique communautaire et s'adresse donc à une sorte de tête-à-tête comme ça mystérieux, d'autant plus mystérieux que quand on lit le romancier n'est pas là, évidemment. Donc, et quand le romancier écrit, le lecteur n'est pas là. Donc dans une sorte de relation asymétrique et jamais complète. Donc la complétude, elle est aussi déjà dans cette affaire-là. Donc pour Benjamin, le roman ne peut plus transmettre de sagesse pratique, ne peut plus transmettre d'Erfahrung, mais il est occupé à essayer de dire le sens de la vie. Et en allemand, Benjamin utilise un autre mot très important, c'est-à-dire que l'expérience dont il fait son objet, c'est ce qu'on appelle en allemand Erlebnis, c'est-à-dire l'expérience vécue, hein, le ressenti, la chose vécue de l'intérieur. Alors, c'est un texte très problématique, le texte de Benjamin, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une tonalité mélancolique qui laisserait entendre, et qui a été un peu aggravé par le philosophe italien Giorgio Agamben, il y a une sorte de déploration possible de « Ah, plus d'expérience, ah, nous avons perdu l'expérience », qui, moi, me satisfait pas trop, même si je crois qu'il faut quand même voir la littérature comme le processus par lequel toute une partie de formes d'expérience qui sont confisquées par des savoirs spécialisés peut continuer à se transmettre. C'est une des thèses de Carlo Ginzburg que je reprends très allusivement, mais je pense que le 19e siècle hérite comme ça aussi de toutes sortes de formes de savoirs pratiques, la météorologie, la psychologie sociale, le savoir qui est utile pour réussir dans l'existence, si on s'appelle Rubempré ou Rastignac, enfin bon. Donc, de façon un peu déplorative, Benjamin dit « la modernité, c'est ce qui nous éloigne de plus en plus de toutes ces formes d'expériences transmissibles. Elle est cette espèce de radicalisation de la solitude, de l'impossibilité de communiquer ce qu'il y a de plus personnel. » Moi, je dis un peu différemment, mais dans la suite de Benjamin, moi, je dis, il me semble que justement, ce que le roman découvre comme son terrain privilégié ou propre, c'est l'Erlebnis. C'est justement l'immense miroitement, d'une certaine façon, de ce qui est à la fois le plus commun et le plus incommunicable, c'est-à-dire l'expérience vécue. Et de cette manière-là, on peut dire que le roman est une des manières de nous faire faire l'expérience imaginaire de cette Erlebnis, mais effectivement, sans pouvoir nous rassurer du côté d'une Erfahrung, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas... Voilà. Après avoir lu Promenade au phare ou Voyage au phare, qu'est-ce qu'on peut dire comme savoir pratique ? Que nous sommes mortels, nous le savions déjà. Donc c'est pas du tout au niveau de quelque chose qui se transmettrait, mais plutôt au niveau d'une sorte de manière de faire éprouver une expérience de la solitude et de l'intériorité.
C'est un peu ce que tu appelles le passage, finalement, de l'interrogation sur le sens de la vie à l'interrogation sur le sens d'une vie, finalement. Il y a ce glissement que tu proposes. Je trouve qu'il y a un passage dans cet essai, je ne sais pas si tu serais d'accord pour le lire, qui est une sorte de dépassement, je trouve, donc, de la contradiction de Benjamin, et qui propose une ouverture à partir justement des deux études romanesques dont on vient de parler.
Je vais jusque là.
Là, oui.
Ah, oui,
ça
oui.
Va.
Oui, oui, tout à fait. Le lecteur, comme le romancier, fait imaginairement deux expériences du temps. En épousant le point de vue des personnages, il partage une Erlebnis particulière, c'est-à-dire une manière intime de sentir et d'éprouver la durée, le poids du temps, les moments de brèche. Cette expérience vécue que le roman ne cesse d'explorer dans toutes ses possibilités est toujours singulière. Elle tient à l'idiosyncrasie du personnage tel que le romancier la constitue, en relation avec tout le réseau d'attitudes existentielles qu'il déploie grâce aux autres personnages, dans l'entrelacement des motifs significatifs. Mais il fait aussi l'expérience de pouvoir regarder de l'extérieur et comme un tout, une vie qui n'est pas la sienne. Même s'il la rapporte peu ou prou à la sienne, le romancier, comme le lecteur, accède à une sorte de surplomb fictif qui permet d'embrasser la vie et la mort d'Ivan Illich, la vie et la mort de Mrs. Ramsay. Il réalise par la pensée une sorte de préhension d'ensemble qui rend justement loisible de juger du sens, de la direction comme de la signification éventuelle d'un itinéraire de vie. Mais même la mort ne donne pas à ce trajet une vectorisation simple. L'agonie d'Ivan Illich est exemplaire sans l'être. La révélation finale à laquelle il accède ne lui sert en vérité à rien. Et le récit ne sera allé en une boucle volontaire que de sa mort annoncée dès le début, à sa mort ressentie de l'intérieur. Le roman semble, avec une plus nette intensité à l'époque moderne, se déployer dans l'espace ténu mais capital qui sépare le sens de la vie du sens d'une vie. Comme si l'un et l'autre, inextricablement liés, ne pouvaient plus se rejoindre ou se confondre. Entre la généralité du slogan wolfien et la singularisation de la formule, le roman cherche les points d'ajustement, les moments de divorce ou de distorsion. Entre l'expérience vécue, Erlebnis, incommunicable mais partageable, dont le roman moderne a fait son terrain d'investigation, et une réponse collective, ou plutôt ce qui annulerait toute question dans la manifestation d'une évidence, c'est la question qui ne cesse de creuser sa vrille. Non que tous les personnages en soient nécessairement porteurs, puisqu'ils peuvent aussi bien incarner ceux pour qui l'évidence subjective suffit, mais le rapport à l'idée même de la vie d'autrui, sa possibilité, son examen par le sujet lui-même, sa mise en scène et en fiction, interdisent de stabiliser l'inquiétude portée sur la nécessité et la signification d'une existence.
Bien. Voilà de quoi se nourrir pour un bon moment. Donc après cette Je pense qu'on va, on arrive un petit peu au terme, on ne va pas dévoiler la totalité de ce travail, on aurait bien du mal d'ailleurs, et surtout le temps qui nous est imparti ne nous le permettrait pas. Mais je voudrais peut-être qu'on termine ou qu'on ouvre sur une question un peu plus personnelle auquel j'ai pensé en lisant cet essai. L'impression en fait que au-delà du travail théorique, au-delà de l'interrogation du chercheur qui est la tienne et qui prolonge donc des travaux antérieurs, le sentiment lorsqu'on lit un essai comme celui-là, donc où on approche quand même, certes à travers des romans, des questions la mort inéluctable, l'écoulement du temps, la capacité d'inventer sa propre durée intime à travers le sentiment de la finitude. Ces choses-là, on a l'impression que tu les interroges depuis un point de vue qui n'est pas uniquement celui du critique, et qui est peut-être aussi celui tout simplement d'un homme qui est préoccupé à un moment donné de sa vie. Peut-être en reprenant des interrogations anciennes, hein, puisque tu disais que il y a plus de 25 ans que tu avais lu le livre de Virginia Woolf, donc Vers le phare, mais que maintenant peut-être le temps aussi est celui de ces questions-là. Est-ce que c'est une lubie du lecteur ou est-ce qu'on a peut-être on approche quelque chose,
le cap de l'âge sans doute, mais
Ou de la maturation des questions aussi, peut-être qu'il arrive maintenant un moment où elle trouve cette formulation-là.
Oui. Je vais peut-être répondre un peu à côté avant de répondre peut-être plus justement, mais la chose un peu bizarre, c'était d'écrire un petit livre. Voilà. Ça ne fait pas beaucoup de pages, c'est peut-être un peu trop dense d'ailleurs dans les choses traitées, mais une des choses qui, moi, m'apportait le plus avec ce petit livre, c'était... Enfin, plusieurs choses. La première chose, c'était quand même de revenir à une interrogation sur la nature des études littéraires, voilà. Et d'essayer de contribuer quand même dans une période assez éprouvante pour les disciplines qui sont les nôtres ou pour les pensées qui sont des pensées de la question qu'on aime de moins en moins aujourd'hui. On aime les savoirs pratiques, on aime les sciences appliquées, on aime les sciences, la neuroscience, les sciences cognitives, voilà les choses qui sont pleines de réponses, hein. plus que les disciplines de l'herméneutique, qui sont les disciplines traditionnelles de la littérature, de la philosophie, des sciences humaines. Donc je voulais quand même aussi, d'une certaine manière, dans un moment où on est presque sommé de dire l'utilité sociale de ce que nous faisons, rappeler que l'activité du lecteur de romans, pour aussi futile qu'elle pourrait sembler, est une chose extrêmement importante, parce que c'est ce déplacement du point de vue qui permet de se voir soi-même comme d'un autre point de vue, en tant que j'aurais quelque chose comme une existence et les manières par lesquelles je me raconte cette existence. Donc il me semblait que c'était... voilà, il y avait à la fois cette nécessité de pas justifier, mais enfin de repenser un peu la place et la force des études sur la littérature, en tout cas. Le deuxième point qui, moi, m'était important, c'est qu'il me semble aussi que dans ce livre, j'essaye de réfléchir à un partage, pour moi, essentiel entre ce qu'il y a de plus personnel et ce qu'il y a de plus impersonnel. Wittgenstein, dans la conférence où il parle des questions éthiques et où il dit que, d'une certaine manière, ça n'a aucun sens de se demander s'il y a un sens à la vie, dit pour finir cette chose très belle, il dit, ça n'a aucun sens, mais c'est tout à fait crucial, c'est comme de s'émerveiller qu'il y ait le monde. Ou c'est comme de s'émerveiller qu'il y ait le langage. Et je crois que la littérature participe de cette espèce de manière de s'étonner qu'il y ait une vie. En même temps, c'est une évidence, certainement. Mais ça fait partie de cette manière de s'étonner qu'il y ait une sorte de puissance ou de pouvoir. Alors, qui me paraît être une manière de nouer très singulièrement, mais de façon très importante pour chacun, quelque chose qui est le plus personnel, c'est ma vie, c'est la façon dont je peux souhaiter faire quelque chose de ma vie, ou ne pas, hein, bien évidemment, être fidèle à quelque chose, tenir des promesses, accomplir quelque chose, savoir ce qui durera, pour le dire en termes wolfiens, de ce qui n'est pas simplement annulé par le pouvoir égalisateur de la mort. Mais cette chose la plus personnelle, justement, elle est en rapport tout de suite avec des puissances, d'une certaine manière, qui sont absolument impersonnelles. Le langage, la vie, la mort. Voilà. Et donc, tu disais au début, à propos de ce livre, de quelle manière il pouvait aussi marquer un trajet. Je suis enfin arrivé à la conclusion, c'est une petite victoire personnelle qui passe peut-être totalement inaperçue aux yeux des lecteurs, mais je suis enfin arrivé à me formuler quelque chose qui, pour moi qui lis Blanchot depuis très très longtemps, est un des points d'achoppement que j'ai sur la pensée de Blanchot, c'est sa pensée du neutre. Et Blanchot tourne plutôt la littérature vers quelque chose qui serait l'ouverture de ce neutre, ni. Et j'ai jamais réussi à comprendre ça personnellement. Il dit aussi c'est le passage du jeu au il. Enfin bon. Donc arrivé au terme de ce trajet de un peu de méditation sur le roman, moi il m'a semblé que c'était plus juste de dire que le roman était une manière, l'art de façon générale, je crois, mais la philosophie aussi bien. C'est pas une activité qui serait entièrement séparée. Mais en tout cas, je crois que ce qui est le plus important, c'est le rapport le plus personnel qu'on entretient à l'impersonnel. Voilà. Et donc, le fait que ce qui pourrait passer dans ce que je dis pour une sorte d'hyper-individualisme, il me semble que dans le roman de Tolstoï aussi bien que dans le roman de Wolfe, ce que disent ces livres, ou ce qu'ils montrent, parce que je ne sais pas s'ils le disent, mais enfin, ils le pointe en tout cas, c'est que la négociation d'une vie, c'est la manière la plus personnelle dont je reste en rapport avec le plus impersonnel. Et d'une certaine manière, c'est ce qui se passe avec le langage. Je suis bien obligé d'énoncer quelque chose qui ne m'appartient pas. Voilà. De même que j'ai une vie qui ne m'appartient pas en un certain sens. Donc cette négociation du plus personnel avec l'impersonnel, je crois qu'elle m'obligeait aussi à prendre un ton, une façon de parler, ou une manière de mettre en avant ce qui était aussi une expérience de lecture personnelle, différente de ce qui est généralement pratiqué dans la critique universitaire ou dans un questionnement académique. Le questionnement, il était peu académique de ce point de vue-là, et je tenais assez à ce que ce livre ait la forme d'une méditation, finalement, à partir de certaines choses, et pas pour revenir au plus personnel, forcément, mais pour revenir à l'articulation ou à ce nouage de quelque chose qui est l'engagement le plus personnel dans l'impersonnel, voilà, si on peut dire.
Mais ce serait peut-être pas mal de finir sur cette belle expression. On va te remercier. Merci.